France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, un cerveau, comment ça marche ? On le sait aujourd'hui, notre cerveau construit en partie la façon qu'a le monde de nous apparaître, les idées que nous nous faisons à son propos et les actions que nous y menons. Exemple, en plein jour, le monde nous apparaît coloré et net. Nous en déduisons que nos yeux voient les couleurs et les détails des choses autour de nous, dans toutes les directions auxquelles ils ont accès. Or, c'est faux. On le sait aujourd'hui, ils ne perçoivent les couleurs et la précision des formes que droit devant eux, à l'intérieur d'une petite zone ayant la taille angulaire d'une pièce de monnaie tenue à bout de bras. Tout le reste, pour nos yeux livrés à eux-mêmes, est flou et en noir et blanc. Ils ne voient donc pas ce que nous croyons qu'ils voient. D'où provient cet écart? De ce que notre cerveau effectue à leur place une grosse partie du travail. À partir des informations très parcellaires qu'il reçoit de la part des cônes et des bâtonnets, il reconstitue en continu et très rapidement, à coup de traitements sophistiqués, une image globalement nette et colorée de ce qui est autour de nous dans toutes les directions accessibles à notre regard. Image que nous assimilons ingénument à ce que nos yeux voient directement et par eux-mêmes. En somme, notre cerveau, acolyte discret œuvrant à notre insu entre le monde et ce que nous considérons être notre moi, augmente les performances de nos yeux. Question. Où s'arrête ce travail diligent? Le cerveau se contente-t-il de pallier les insuffisances de nos organes sensoriels? Les pallie-t-il toutes? Et se peut-il que parfois il s'égare? Ou bien qu'il en fasse trop? Ou pas assez? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir Richard Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à Sorbonne Université, chercheur à l'Institut du cerveau, où vous dirigez FrontLab, qui est une équipe spécialisée dans l'étude du cortex préfrontal. Et vous venez de publier un livre passionnant qui répond aux questions que je viens de poser, qui s'appelle Cortex, et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Question naïve pour commencer, Richard Lévy. En quoi consiste votre métier? Enfin, en quoi consiste votre activité quotidienne en tant que chercheur et comme médecin?
C'est une activité d'animateur, je dirais. J'anime une équipe de médecins et de soignants qui ont pour fonction de traiter des patients qui ont des maladies neurodégénératives qui vont affecter les fonctions intellectuelles, des patients qui ont par exemple la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Ça, c'est une partie de mon travail. La deuxième partie, c'est d'animer une équipe de recherche faite de chercheurs purs et de médecins-chercheurs. Et le rôle de cette équipe, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent certaines grandes fonctions cérébrales, comme par exemple nos capacités à prendre des décisions, à se motiver ou être créatif, et aussi de générer des applications pour la pratique clinique. Et donc, il y a une sorte d'aller-retour entre la pratique médicale et la recherche, la pratique médicale générant des questions et la recherche tentant d'y répondre et d'apporter des applications cliniques. Enfin, une dernière partie de mon travail, ça consiste à faire de l'enseignement auprès d'étudiants, que ce soit des médecins ou des étudiants en sciences.
Votre livre, Richard Lévy, s'appelle « Cortex ». Est-ce qu'on peut le définir précisément, dire où il se trouve, combien il pèse?
Alors, on peut essayer de le définir, c'est pas très compliqué. Le cortex, c'est la couche superficielle des hémisphères cérébraux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est une couche qui contient ce qu'on appelle la matière grise, c'est-à-dire principalement des cellules nerveuses, nos neurones. Et il n'y a pas que le cortex qui contient des neurones, mais c'est la partie qui en contient le plus. Et c'est donc plusieurs milliards, dizaines de milliards de cellules nerveuses qui sont contenues dans cette structure cérébrale. Alors, le poids exact du cortex, si on le retire du reste du cerveau, je ne pourrais pas dire.
Vous dites que c'est la peau des hémisphères.
C'est la peau des
cortex. Ça veut dire qu'il est très fin.
Alors, c'est une structure donc qui est organisée en plusieurs couches. Typiquement, ce qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire ce qui, dans l'évolution du cortex, est le plus récent, est composé de 6 couches. 6 couches de neurones, chaque couche ayant des connexions particulières, et évidemment ces 6 couches étant connectées les unes aux autres. Donc c'est cet ensemble, ce tissu, ce réseau de neurones qui sont constitutifs de notre cortex cérébral. Et la profondeur, alors il y a des noyaux, c'est-à-dire des amas de neurones dans la profondeur du cerveau, mais il y a surtout ce qu'on appelle la substance blanche. Et la substance blanche, ce sont les prolongements de ces neurones qui forment des routes de communication et qui permettent d'associer finalement les différentes parties de ce cortex les unes aux autres et de permettre à l'ensemble du cerveau de travailler harmonieusement.
Oui, quand on vous lit, Richard Leber, on comprend bien que le cerveau il est connecté de mille façons. C'est pas du tout une succession de zones qui seraient étanches les unes par rapport aux autres. C'est un milieu de très fortes connexions. Et ce que j'ai dit dans mon chapeau sur le fait de voir, qu'en fait notre cerveau voit plus que ce que nos yeux nous font croire qu'il voit, est-ce que c'était juste ?
C'est juste, et moi j'aurais même été plus loin, j'aurais dit que les yeux, les oreilles captent. Ne voit pas, les yeux ne voient pas,
les oreilles
n'entendent pas, et c'est le cerveau qui décode, intègre et nous donne finalement cette impression de voir et d'entendre. Donc des capteurs qui sont reliés directement à nos neurones, qui vont dans une sorte de vague progressive transformer une information qui est très élémentaire comme des contrastes, des variations de gris, des gradients de gris, progressivement par un traitement successif et de plus en plus complexe de l'arrière vers l'avant du cerveau en une information complètement intégrée qui fait que si vous voyez à la fin une personne de trois quarts, vous pouvez dire que c'est votre grand-mère sans pouvoir nécessairement décrire tous les traits qui sont présents sur son visage puisque vous ne le voyez pas complètement.
C'est-à-dire qu'à partir d'une vue partielle, on est capable de, par inférence, d'en déduire une conclusion.
Absolument, vous pouvez extrapoler à partir du moment où vous avez une vision partielle de l'information, mais ça, ce sont les traitements les plus complexes qui sont faits sur cette
information. Oui, dans votre livre, vous parlez de, je crois que c'est au milieu du livre à peu près, vous parlez d'une, si on voit une trompe qui sort d'une rivière, notre cerveau comprend qu'il s'agit d'un éléphant.
Absolument.
Alors qu'on ne voit pas l'éléphant, en tout cas pas entièrement.
Absolument, parce que la trompe est constitutive de notre connaissance de l'éléphant. Elle est donc reliée dans un réseau, comme une toile d'araignée, à d'autres informations qui concernent l'éléphant. Et le simple fait de voir cette trompe va connecter à d'autres informations qui sont caractéristiques de l'éléphant. Et donc, on va pouvoir, à partir d'un fragment d'information, reconstituer une connaissance plus globale d'un objet, un éléphant par exemple.
Mais est-ce que c'est pas un peu effrayant de prendre acte du fait que la médiation entre le monde et nous passe par le cerveau et qui peut nous tromper de façon très spectaculaire?
On peut même dire que pour notre cerveau, le monde n'existe qu'à travers lui-même. C'est-à-dire que ce que l'on perçoit n'est qu'une traduction finalement dans notre cerveau d'informations diverses qui sont traduites pour nous en information visuelle, en information auditive, en information gustative, olfactive. On a un système qui détecte ça et qui nous permet de détecter que ça. Donc nous avons une représentation partielle qui est basée sur les informations que nous recevons et surtout la façon dont notre cerveau les traduit. Et c'est ça le plus important. Donc de votre perspective et de la mienne, nous ne sommes pourtant qu'à quelques, peut-être un mètre l'un de l'autre. Nous vivons dans le même monde et pourtant nous en avons une perception qui est déjà un peu différente. Et ça, c'est que une fraction des différences que vous percevez, que moi je perçois. Ces différences sont liées à tous les traitements
intérieurs. Je ne peux pas savoir ce qui se passerait si mon cerveau était remplacé par le vôtre, et réciproquement.
Exactement. Pour l'instant, vous avez votre trajectoire qui vous a mené ici. Moi, une trajectoire différente me mène au même endroit. Donc, tout ce qui s'est passé avant détermine ma façon de percevoir ce monde. Et vous, de la même façon, avec toutes vos expériences antérieures, toutes les connaissances sémantiques que vous avez tissées au fil du temps. Donc la perception du monde extérieur est une perception en grande partie subjective. Alors la proportion d'objectivité et de subjectivité est très difficile à déterminer à partir du moment où nous avons un système duquel nous ne pouvons pas sortir et qui nous permet de comprendre le monde qu'à travers les organes qui nous sont propres.
Mais vous qui êtes neurologue, est-ce que vous êtes capable, Richard Leber, de comprendre d'où vient que notre cerveau est capable de se transcender, c'est-à-dire de découvrir des choses qu'il ne voit pas, que ses sens ne lui indiquent pas, par exemple Les électrons, les quarks, les bosons de Higgs, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, on les perçoit pas, mais on a pu les découvrir à l'issue d'un travail fait par le cerveau, en partie contre lui-même d'ailleurs.
Absolument. Alors, là, si je peux me permettre, je vais essayer de développer. Il y a deux grands types de comportements. Les comportements qu'on génère automatiquement. Par exemple, la porte s'ouvre dans ce studio. Je vais tourner la tête, je m'y attends pas, je tourne la tête. Je réagis à une perception. Je perçois et j'agis. Je suis dans le présent. Et je vis l'instantanéité du moment. À partir du moment où je vis l'instantanéité du moment, je ne peux pas vivre autre chose. Je suis esclave de ce moment. Donc à partir du moment où un être biologique ne vit que dans l'instantanéité, il ne peut pas percevoir ce qui est autre que la concrétude du monde présent instantané. Nous avons dans notre cerveau la capacité de tamponner le présent, de figer le présent. Et ça, c'est, à mon sens, le point essentiel qui fait que nous sommes des êtres humains. C'est que ce temps que nous vivons, imaginons que je puisse l'arrêter, j'arrête tout. Je me lève, je passe à côté de vous, je regarde vos fiches, je vais voir le technicien et je peux analyser la situation, je peux délibérer, je peux décider ce qui va se passer après.
En prenant votre temps.
En prenant mon temps. J'ai différé le temps, c'est-à-dire que j'ai introduit une nouvelle dimension entre le je perçois et le j'agis. J'ai ouvert ce temps et dans ce temps, je vais pouvoir injecter de nouvelles dimensions, des temps qui n'existent pas, le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore. Et cette injection de temps va modifier complètement notre façon d'agir. Je continue mon développement. Si je perçois aussi le passé en même temps que le présent, j'injecte les expériences du passé, mes connaissances. Et si je peux percevoir un futur qui n'existe pas, je peux anticiper les conséquences de mes actions. Et surtout, et là pour répondre plus directement à votre question, je peux imaginer un monde qui n'est pas. Je peux transcender la concrétude du monde matériel dans lequel nous trouvons pour accéder à d'autres représentations. Par exemple, grâce à cette prospective du futur, je vais pouvoir penser que malgré le fait que je n'ai pas d'ailes, peut-être un jour pourrais-je voler. Je n'ai pas de branchies, mais peut-être pourrais-je aller au fond des océans. Donc ces questions, elles ne peuvent être abordées qu'à partir du moment où nous ne sommes pas dans le présent. Et il faut donc ouvrir ce temps, et grâce à une structure dans notre cerveau, qui est la partie la plus antérieure du cortex, qu'on nomme le cortex préfrontal,
eh bien, c'est le héros de votre livre.
C'est le héros de mon livre, parce qu'il, je dirais pas qu'il est spécifique à l'espèce humaine, mais il est très caractéristique.
Il est plus gros chez nous qu'ailleurs.
Plus gros chez nous qu'ailleurs. Il a même une particularité chez les primates qui n'existe pas chez les autres espèces de mammifères, qui fait que on va pouvoir ouvrir ce temps. Alors, c'est pas un concept, c'est une réalité incarnée, c'est-à-dire que on peut mettre en évidence l'activité de cellules de neurones qui vont permettre pendant un temps de finalement réfléchir, de délibérer, de préparer l'action future et d'imaginer ce qui n'est pas. Et donc on va pouvoir imaginer un certain nombre de choses. Typiquement, imaginer ce qui n'est pas, c'est être dans l'abstraction. Et donc dans l'abstraction, on peut imaginer tout un ensemble de choses comme ces propriétés physiques qui ne sont pas apparentes à l'œil.
Vous dites dans votre livre, Richard Lévy, que tendre la main, serrer la main d'un ami, d'un collègue, c'est un geste banal, mais qui en réalité, du point de vue du cerveau, est très compliqué. Tout le système nerveux est impliqué, sauf ce fameux cortex préfrontal.
Et éventuellement, il peut l'être. Ça dépend dans quelles circonstances on serre une main. Mais si c'est un geste automatique, c'est un
salut.
Un salut, voilà. Vous m'avez accueilli, on s'est serré la main. C'est une convention sociale. C'est quelque chose d'assez automatique. Et pourtant, ce geste automatique, il nécessite un grand nombre d'activités dans le cerveau. Déjà, serrer une main, c'est mettre en action de nombreux muscles. Il faut en contracter certains et en décontracter d'autres.
Sinon,
on est dans l'écrasement, on est dans un geste incompréhensible dans lequel des muscles qui ne devraient pas être mis en action le sont et d'autres qui devraient ne le sont pas. Donc, ça fait intervenir au sein de la partie motrice de notre cerveau un grand nombre de structures. Il faut aussi contrôler ce geste. Et bien sûr, si je tends la main, il faut d'abord que j'ai vu, que je vous ai vu, que j'ai décodé que votre espace personnel. Donc, il faut comprendre l'espace. Il faut comprendre l'intention. Il faut ensuite préparer, séquencer la série d'action est jusqu'à là, le cortex préfrontal n'intervient pas nécessairement beaucoup. Mais maintenant, si le contexte change un peu, et je me pose la question, est-ce que dans cette circonstance, je dois ou non serrer la main, je dois prendre une décision qui sort de l'ordinaire, en plus, mon cortex préfrontal interviendra. Donc vous voyez déjà un petit serrement de main et une grande activité cérébrale.
Alors, dans votre livre, vous racontez beaucoup de choses que vous avez apprises récemment, vous, votre équipe et d'autres. Et puis vous parlez de cas de malades que vous recevez, qui ont des symptômes qui sont parfois très surprenants, qui sont tous liés à des, je sais pas comment on peut appeler ça, des lésions cérébrales.
Oui, des lésions cérébrales.
Notamment un monsieur qui s'appelle Marc, qui a 58 ans et qui est atteint de ce que vous appelez une démence frontale.
Oui.
Alors quels sont les symptômes et qu'est-ce que cela indique de ce qui s'est passé dans son cerveau?
Alors c'est une... Ce sont des troubles extrêmement difficiles à détecter parce qu'il s'agit de troubles du comportement. Or, le comportement, chez un être humain normal, a une grande variabilité. Ce qui peut vous paraître anormal peut paraître normal à quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir, dans un premier temps, essayer de détecter des anomalies du comportement qui, en plus, sont apparues de façon extrêmement insidieuse. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dégénérescence des neurones dans certaines régions du cerveau, comme son nom l'indique. Fronto-temporal, ça veut dire que c'est le lobe frontal et les lobes temporaux qui sont impliqués, donc les parties antérieures du cerveau, dont ce fameux cortex préfrontal. Et cette dégénérescence va être extrêmement progressive, insidieuse, et donc les troubles du comportement vont apparaître très lentement. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des troubles qui vont toucher un certain nombre de secteurs qui permettent à nos relations sociales, notamment, d'être ajustées. Par exemple, quelqu'un va vous aborder dans la rue, il va vous faire une blague sexuelle, il ne vous connaît pas. Ça, c'est un comportement qu'on va pouvoir voir apparaître chez ces patients. Des personnes aussi qui vont commencer à se négliger sur le plan vestimentaire, sur le plan physique. Des personnes qui vont modifier leur comportement alimentaire, qui vont commencer à aimer ou à ne sélectionner que des aliments sucrés ou se précipiter sur la nourriture, quitte à l'engloutir en bouche énorme. Des personnes qui vont commencer à manquer d'empathie, qui vont se désintéresser de leurs proches. Par exemple, si le conjoint est malade, qui ne vont pas poser de questions, qui ne vont pas aller le voir à l'hôpital, qui ne vont pas tenir compte de la période de convalescence nécessaire, qui vont lui demander de faire des choses qui ne sont pas possibles de faire, qui ne vont pas prendre de nouvelles des enfants, des petits-enfants, etc. etc. C'est aussi des difficultés qui portent sur l'incapacité à initier des comportements volontairement, ce qu'on appelle l'apathie. Et donc tous ces troubles vont progressivement apparaître et au bout d'un moment, les proches ne vont plus reconnaître ces personnes et vont même se dire « mais cet homme ou cette femme avec qui je vis, ce n'est pas la personne que j'ai connue, c'est quelqu'un d'autre. »
Est-ce que la personne malade se rend compte qu'elle a des troubles ?
Et la personne malade ne se rend compte de rien, parce que si elle s'en rendait compte, elle ajusterait son comportement.
Elle se corrigerait.
Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical l'anosognosie, un terme qui est fameux depuis un certain président de la République. Cette incapacité à percevoir ce qui leur arrive fait aussi partie des symptômes classique de cette maladie. Alors comment ? Quelle est la grille de lecture qui permet de déchiffrer tout ça ? Eh bien, on a ce cortex préfrontal qu'on peut considérer tout d'abord comme une sorte de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il ne joue aucun instrument spécifique de la pensée, mais il va organiser la pensée de façon à ce qu'elle soit harmonieuse. Il va dire à tel instrumentiste de la pensée, par exemple, au langage, d'intervenir à tel moment, et à tel autre, par exemple, l'envie, je ne sais pas, de manger ou d'aller uriner, de se bloquer pour permettre à cette discussion d'avoir lieu. Eh bien, ce cortex préfrontal, ce chef d'orchestre, va commencer à ne plus être capable de diriger son orchestre. Et les instrumentistes qui devraient jouer s'arrêtent de jouer, c'est l'apathie, et ceux qui ne devraient pas jouer commencent à jouer, et c'est la désinhibition comportementale.
C'est plus que la cacophonie.
C'est une cacophonie particulière. Par ailleurs, ce n'est pas qu'un chef d'orchestre, c'est aussi l'organe de notre créativité. Et donc, en tant que tel, tout d'un coup, nos comportements sont appauvris, sont sont automatiques, manquent de richesse. C'est aussi un économiste de notre pensée, donc c'est celui qui va valoriser nos comportements, qui va permettre de dire, voilà, telle action est motivante, telle autre ne l'est pas, voilà ce que j'attends de cette action et voici ce que je dois éviter. Et tout d'un coup, il ne le fait plus et notre motivation se modifie. On va courir après des objets qui n'ont pas de valeur ou alors on va s'arrêter de courir complètement, on manque de motivation. Et c'est aussi notre ambassadeur, celui qui est capable de nous permettre d'interagir avec les autres. Et donc à partir de ce moment-là, on va, par le biais de l'empathie, on va perdre cette capacité d'interaction sociale ajustée par un manque de compréhension des intentions, des pensées, des émotions d'autrui.
Un autre jour, Richard Lévy, vous recevez une patiente que vous appelez Martine dans le livre, qui, elle, est atteinte de démence sémantique. Vous ne la voyez qu'une fois, vous comprenez quel est son mal, si j'ose dire, et vous concluez ce chapitre en disant « je ne la reverrai plus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire pour elle?
Non, pas du tout. Ça veut dire que cette... Alors, il faut peut-être commencer par décrire de quoi il s'agit. Quand on parle de démence sémantique, c'est un terme qui paraît complètement obscur à première vue. Vous l'avez compris, notre cerveau construit des connaissances. Si je reprends l'éléphant, on sait que l'éléphant est gris, qu'il a une tronche, qu'il a de grandes oreilles, qu'il a une texture de peau un peu dure, qu'il va vivre en Asie ou en Afrique, dans la savane ou dans la jungle. Vous connaissez aussi l'éléphant bleu, la station où on va laver sa voiture, le thé éléphant, un éléphant ça trompe énormément, d'Yves Robert, etc. Donc on a une connaissance élargie d'un objet comme l'éléphant. Mais cette connaissance, elle n'est pas localisée dans un endroit du cerveau. Elle est éparpillée. La connaissance de la couleur de l'éléphant est traitée par les régions qui traitent de la couleur, qui décodent la couleur des objets. C'est la même région que celle qui permet de détecter un objet que je vois. Votre veste est bleue, eh bien ça va aller dans une région qui va décoder la couleur bleue.
Votre pull aussi. Hein.
Le mien aussi. Mais moi, je le sais, j'ai même pas besoin de le regarder, mais je sais que mon pull est bleu. Eh bien, ça va activer cette même région pour la couleur bleue de mon pull. Donc, à la fois, les perceptions que l'on reçoit, mais les informations qu'on a déjà stockées, sont réparties selon différentes régions, selon
ce que... Vous parlez de toile d'araignée.
C'est une toile d'araignée. On peut tout à fait imaginer ça comme ça, ou un immense réseau de métro, dans lequel des stations vont traiter d'aspects très spécifiques d'une information, de sa couleur, de la forme, du mot éléphant tel qu'il est écrit, ou du son éléphant tel qu'on l'entend, ou alors du son que fait l'éléphant, le barrissement, etc. Donc toutes ces régions différentes sont interreliées les unes aux autres, et il y a des stations de correspondance. Et la démence sémantique, c'est une maladie qui va toucher. C'est la plus grosse station de correspondance. Si vous voulez, un peu la station Léal-Châtelet, celle qui reçoit 7 ou 8 lignes de métro. C'est un peu le super hub qui reçoit des informations à la fois auditives, visuelles, de connaissances langagières, de l'éléphant par exemple. Et donc imaginez qu'un missile, un Scud, tombe sur cette région-là, eh bien... cette information qui est éparpillée dans le cerveau n'a plus de convergence et elle reste éparpillée. Et donc par une information, vous n'arrivez pas à aller retrouver les autres parties de cette information. Et cette patiente, Martine, elle avait une pathologie qui touche ce super hub qui est situé dans l'avant du cerveau, dans la partie la plus avant de nos lobes temporaux. Les lobes temporaux sont les lobes qui sont situés juste derrière nos tempes et nos oreilles. Et donc cette région-là, quand elle est détruite, quand certaines parties de ce lobe temporal sont détruites, eh bien, nous ne pouvons pas reconstituer nos connaissances sémantiques. Et donc, cette patiente, dans le livre, je décris une conversation et je lui demande tout simplement quelle est sa date de naissance. Et le concept même de date de naissance, elle n'arrive pas à y accéder. C'est-à-dire que la route auditive avec les sons de date de naissance ne permettent pas d'accéder à l'information abstraite de ce que représente une date de naissance. C'est ça la démence sémantique. Ce sont des gens qui vivent dans notre monde, mais qui ne comprennent pas les objets qu'ils rencontrent, que ce soit des mots, que ce soit un verre tel que celui qui est posé sur la table, etc.
Mais alors quelle est leur autonomie par rapport à...
Leur autonomie est excellente parce qu'ils fonctionnent sur un mode automatique qui n'a pas nécessairement besoin d'accéder à ces informations de façon complètement complète, qui n'a pas besoin d'accéder non plus au concept. Et donc, de fait, toutes les actions qui sont générées automatiquement n'ont pas besoin de passer par ce super hub et permettent de faire un tas de choses. Elle peut tout à fait bien faire son café le matin. Maintenant, elle se retrouverait dans un endroit dans lequel elle n'a jamais été. Elle serait totalement perdue. Elle se retrouve dans une conversation qui est une conversation inédite et qui dépasse le bonjour, bonsoir. Elle ne peut la tenir avec moi parce qu'elle ne peut accéder à toutes les informations qui permettent de tenir cette conversation, c'est-à-dire à la fois de s'exprimer, mais aussi de comprendre de quoi il s'agit. Et si elle ne revient pas me voir, c'est simplement parce qu'elle ne se considère pas malade. Elle considère que celui qui l'a amenée en consultation est malade parce qu'il ne la comprend pas. C'est comme si vous étiez au Japon, vous ne connaissez aucun des idéogrammes, mais que vous considériez que tous les Japonais étaient malades, sauf vous. C'est un peu...
Mais est-ce qu'elle a compris ce que vous lui disiez et les questions qu'elle vous a posées? Elle n'a pas pu y répondre, ça vous l'expliquez bien, mais est-ce qu'elle a compris les questions?
Les questions les plus simples étaient comprises, c'est-à-dire que la connaissance sémantique, si vous voulez, il faut s'imaginer ça, cette toile d'araignée, il y a des liens qui sont très épais et puis des liens qui sont plus tenus. Les liens tenus, c'est des connaissances qui sont les moins bien acquises, les connaissances qui sont les plus difficiles, les plus abstraites. Et puis les grandes autoroutes, c'est les connaissances qui, à force d'être répétées, deviennent automatiques. Et donc ça crée des grandes routes. Et c'est pas uniquement des routes virtuelles, ce sont aussi sur le plan physique des connexions qui sont de plus grosse taille, des relations synaptiques, c'est-à-dire des endroits de connexion qui sont physiquement plus importants. Et donc ces grosses routes, si vous mettez un obstacle sur une autoroute à quatre voies, il vous reste toujours trois voies. Maintenant, si vous mettez un obstacle sur une route secondaire ou sur un chemin de terre, eh bien, ça va être difficile de contourner et d'arriver au but. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que comme c'est une maladie qui évolue très progressivement, les petites routes, quand il y a un obstacle dessus, ben elles vont tout de suite empêcher l'information de circuler. Puis sur les grandes autoroutes, ça va continuer à circuler jusqu'à ce qu'il y ait trop d'obstacles pour empêcher la circulation. Donc ça va d'abord être les connaissances abstraites qui vont fléchir, les connaissances qui sont le moins stabilisées dans l'esprit de chacun. Et puis après, les grandes connaissances, les choses, les automatismes vont souffrir bien plus tard.
Richard Lévy, comment est-ce que le cerveau fait pour intégrer ce qu'on appelle les normes sociales?
Alors, c'est un point très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'un nourrisson, à son premier jour de vie, n'a pas de normes sociales. Et donc, ça indique donc que cela se construit. Et ces normes se construisent en même temps que le cerveau se construit, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît, son cerveau n'est pas fini. Et en particulier, encore une fois, son cortex préfrontal est loin d'être totalement fini.
À quel âge il est fini le cerveau, d'ailleurs ?
Alors, c'est pas complètement connu, mais on a une fourchette. La structure qui est finalement atteint sa maturité le plus tardivement dans le cerveau, c'est le cortex préfrontal, et on pense que c'est atteint entre 25 et 35 ans. Donc, vous voyez, très tardivement dans la vie, mais c'est un atout majeur, c'est-à-dire que ça veut dire que pendant de nombreuses années, on est capable de modifier cette structure et donc de continuer à apprendre à structurer progressivement le cerveau et en particulier le cortex préfrontal. Or, le cortex préfrontal, comme c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui donne notre style cognitif.
Il y a intérêt à le peaufiner.
On peut le peaufiner pendant longtemps. Et donc, si on revient à votre question des normes sociales, on va les bâtir. On va les bâtir par deux mécanismes qui vont construire ce qu'on appelle l'empathie. Le premier mécanisme, les deux premiers mécanismes qui apparaissent très tôt dans la vie d'un enfant, c'est ce qu'on appelle l'imitation. Et on a des structures dans le cerveau qu'on appelle des structures dites de neurones miroirs. Alors c'est un terme qui est peut-être un tout petit peu exagéré, parce que des neurones miroirs, il n'y en a pas nécessairement dans les zones que l'on appelle des structures neurones miroirs, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ces structures qui sont des structures d'action, c'est des parties du cortex qui vont être utiles pour agir, notamment pour parler, eh bien ces structures sont capables de réagir, non pas lorsque l'on bouge ou lorsque l'on parle, mais lorsque quelqu'un d'autre bouge ou quelqu'un d'autre parle. Et donc ça permet par imitation de comprendre par exemple qu'un sourire peut générer un sourire, qu'un geste qui va dans notre direction une intentionnalité bienveillante qui peut lui-même être reproduit. Donc il y a une première phase qui est une phase d'imitation, qui est accompagnée d'une autre phase qu'on appelle la mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité progressivement à se représenter ce que l'autre va ressentir comme émotion. Par exemple, encore une fois dans l'ouvrage, je prends l'exemple d'une mère qui se rend avec son enfant qui est lycéen au résultat du bac. Et donc le lycéen va vers, je ne sais pas si ça marche encore comme ça, mais ça marchait comme ça de mon temps, va vers le tableau où sont affichés les résultats.
J'ai connu ça.
Voilà. Et elle le regarde et il tourne la tête. Et à ce moment-là, selon l'expression de son visage, elle va comprendre si c'est un succès ou un échec. Voilà, ça c'est la mentalisation. Tout ça conduit progressivement à former une première étape qu'on appelle la partie émotionnelle de l'empathie, qui est une étape très basique, très instinctuelle des relations humaines, sur lequel va se construire un deuxième niveau qui est un niveau plus cognitif, plus froid, plus computationnel de l'empathie, et qui se repose sur la capacité que l'on a à faire des inférences de différents degrés. Alors c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, on peut construire de plusieurs niveaux d'inférence. Par exemple, en parlant, je peux me dire « Mais qu'est-ce qu'Étienne Klein pense de ce que je suis en train de dire ?»
Je pense que c'est clair.
Mais votre technicien de l'autre côté de la vitre peut se dire « Mais qu'est-ce que Étienne Klein pense que Richard Lévy pense qu'Étienne Klein pense ?» Voyez,
oula,
ça va loin. C'est des inférences de 3e, 4e degré.
On ne parle même pas de Thierry Beauchamp qui écoute tout.
Donc, vous voyez, on peut arriver à ce niveau-là. Et enfin, la dernière étape, l'ultime étape, c'est qu'à partir de là, on construit des croyances, des valeurs. Alors, on est au plus haut niveau d'abstraction. Et notre moralité, c'est là que sont définies typiquement les normes sociales.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut les perdre facilement? Ou est-ce qu'ils sont vraiment engrammés d'une façon très...
Non, comme c'est la dernière couche que l'on met...
Le plus fragile.
Et cette couche de civilisation, finalement, elle n'existe que parce que l'on a cette structure qu'est le cortex préfrontal. Dès qu'elle est malade, on commence à perdre cette couche de civilisation. Et je peux même vous donner un exemple qui est dans le champ de la physiologie, c'est-à-dire que notre vieillissement normal entraîne une inflexion des fonctions frontales. Et quand on atteint, on va dire, la 7e, 8e décennie, ces fonctions du cortex préfrontal fléchissent un peu. Et en particulier, parmi les fonctions qui fléchissent, quand on est un peu âgé, il y a l'empathie. Donc, c'est-à-dire que simplement, vous voyez, le fléchissement de cette couche de civilisation peut conduire même de façon non pathologique à une diminution de la capacité empathique. Alors, je ne parle même pas des patients qui ont une pathologie qui va toucher cette structure, qui vont perdre cette couche de civilisation. Ce qui est intéressant, parce que à partir de là, on voit apparaître notre animalité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas cette couche de civilisation. C'est toujours les mêmes choses, d'ailleurs.
Alors, Richard Lévy, je vous ai posé la question sur l'âge auquel le cerveau acquiert une forme de maturité. Parce qu'à la fin de votre livre, vous écrivez une phrase qui m'a surpris. Vous dites « Les adolescents sont des malades qui s'ignorent ». Ça veut dire quoi? Ils sont pas terminés?
Ben oui, ils sont pas terminés. C'est-à-dire que, vous avez peut-être eu des ados. Moi, j'en ai eu.
Moi aussi.
D'abord, ils adhèrent à nos normes, et puis ensuite, ils sont rebelles contre nos normes. Mais
c'est les normes de leurs copains qui...
Voilà, ne nous y trompons pas. Ils adhèrent à de nouvelles normes qui sont celles de leurs copains. Et qu'y a-t-il de moins rebelle en réalité qu'un adolescent, c'est-à-dire un jeune qui va adhérer à des normes qui sont en opposition avec les normes antérieures, mais qui sont de nouvelles normes. Et si je dis que l'adolescence, alors j'exagère en parlant de pathologie, c'est un peu provocateur, mais ça veut simplement dire que le cerveau d'un adolescent n'est pas terminé. Et encore une fois, je le répète, si on considère que le cortex frontal atteint sa maturation à 28, 30 ans, 35 ans, eh bien un adolescent, un jeune adolescent de 14 ans, 15 ans, est bien loin encore d'avoir atteint ce point.
Donc vous n'êtes pas favorable à l'abaissement de l'âge légal d'obtention du permis de conduire?
Alors si on considère que l'adulte est en plein contrôle de ses fonctions cognitives et qu'il vit un âge d'or se situe en termes de capacité cognitive maximale entre 30 ans et, on va dire, 70 ans, je ne suis pas absolument certain, alors ça peut paraître provocateur, qu'il faille baisser, par exemple, l'âge du permis de conduire chez un adolescent chez lequel on a montré, ou chez un jeune adulte chez lequel on a montré que ses capacités d'inhibition n'étaient pas complètement terminées. Ce qui veut donc dire qu'à 18 ans, on a peut-être, de façon générale, évidemment, il y a une grande variation d'un individu à l'autre, mais on peut être encore un peu impulsif parce qu'on n'a pas encore atteint le maximum de ce que le cerveau peut donner.
Richard Lévy, revenons à ce cortex préfrontal qui est votre chouchou, enfin, oui. C'est le héros de votre livre. Vous dites qu'il est dual, qu'il est à la fois la raison et l'âme. C'est quand même des mots très lourds, ça. Il va falloir expliquer.
Oui, si vous voulez, si on en vient à un temps où l'âme n'était pas incarnée et la raison pouvait l'être, aujourd'hui, on peut dire que ce que l'on pourrait appeler l'âme, alors, entendons-nous sur les mots. La raison, c'est simple à comprendre d'une certaine façon. L'esprit rationnel, c'est un esprit qui raisonne, c'est un esprit qui organise, c'est un esprit qui planifie. C'est un esprit, finalement, froid, d'une certaine façon. On peut planifier.
Froid au sens de rationnel.
Au sens de rationnel. L'âme, on va la définir comme, non pas l'opposition complète, mais c'est la capacité à tenir compte dans la pensée de nos sensations internes. Par exemple, si j'ai faim, si j'ai soif, ça peut modifier ma pensée. Si j'ai une émotion particulière, une joie, une peine, si j'ai peur, ça va modifier ma pensée. Si mon humeur est basse, si je suis patraque, ça va modifier ma pensée. Et par ailleurs, si j'aime le chocolat et qu'il y en a devant vous, cette valeur que j'attribue au chocolat va aussi modifier mon comportement. Je vais peut-être pas répondre à cette interview pour le plaisir intellectuel, mais parce qu'il y a une boîte de chocolat, peut-être qu'à la fin, si j'ai bien travaillé, comme les singes, j'aurai le droit à un chocolat. Donc, c'est ça, en fait, cette partie chaude du cortex cérébral, c'est la partie qui va réguler nos sensations végétatives qui viennent de l'intérieur de nous, qui va réguler nos émotions, notre humeur, et qui va nous motiver en fonction des valeurs que l'on attribue aux choses.
Mais le cortex préfrontal, il se charge des deux à la fois.
Il se charge des deux à la fois, mais pas dans les mêmes régions. Alors, le cortex préfrontal, c'est un tiers du cerveau. Donc, c'est une immense structure, finalement.
Et il contient lui aussi des zones. Il y en a absolument. Six, je crois.
Oh, il y en a de très nombreuses. Après, ça dépend du niveau de granularité de l'étude. On peut le faire à un niveau très général et on va déterminer deux zones. Une zone froide, une zone chaude, et puis après on peut rentrer dans le détail, chacune de ces zones va être composée de sous-régions, et puis on peut aller dans un niveau de granularité plus important et rentrer à l'échelle de groupements de neurones, de petits réseaux de neurones, etc. Donc on peut parcelliser, on peut balkaniser, si vous voulez, le cortex préfrontal en de très très nombreuses régions. Mais il y a un premier niveau de division qui est cette partie froide, qui est représentée par des structures qui sont dans la partie la plus haute du cortex préfrontal, prosaïque, au sommet du crâne, et puis les parties basses du cortex préfrontal qui sont au contact des orbites. Voilà. Ces deux régions ont deux fonctions extrêmement différentes, et l'une porte les fonctions froides, la planification, le raisonnement, et puis l'autre porte les fonctions chaudes, la motivation, la régulation des affects, des émotions, des fonctions végétatives. Les fonctions végétatives, c'est les fonctions internes, comme la faim, la soif, par exemple. Et donc, c'est pas le hasard, en fait, c'est-à-dire que c'est lié au principe de l'évolution des espèces, c'est-à-dire que notre cortex préfrontal, nous, humains, a développé de façon très, très, très particulière la partie froide. Tous les mammifères ont une partie chaude. Les primates ont une partie froide qui s'est surajoutée à cette partie chaude. En d'autres termes, il y a comme une sorte de saut ontologique entre les mammifères et les primates. Et au sein des primates, nous avons développé de façon très spectaculaire cette partie froide.
C'est-à-dire que si je mets là une boîte de chocolat, votre partie chaude va vouloir vous proposer de les manger et votre partie froide va dire « faut faire attention ».
Alors, enfin, c'est pas un antagonisme. Hein. Je dirais que le
prends-en, mais pas trop.
Voilà, la partie chaude va dire voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Quelle est la raison? Quel est l'objectif? Quelle est ma motivation pour être ici derrière ce micro? Et en fonction de la valeur que je vais attribuer à ce contexte, je vais indiquer à ma partie froide quel genre d'opération computationnelle il va falloir faire. Évidemment, on va se parler d'une façon différente de celle avec laquelle je vais parler à mon neveu de 3 ans ou à la façon dont je vais parler à un étudiant. Donc, je décode le contexte grâce à ma partie chaude et j'opérationnalise ma réponse grâce à la partie froide. Je planifie, je
raisonne. Donc, ces deux parties qui se parlent, hein,
elles se parlent, elles sont en interaction permanente. Évidemment, si vous en enlevez une, vous déséquilibrez l'ensemble. Si j'enlève la partie chaude, je peux être un raisonneur froid. Et donc, j'ai plus d'empathie, j'ai plus de motivation, mais je peux faire encore des choses très complexes. Donc, je peux être un esprit, typiquement, ce qu'on pourrait voir avec un serial killer, voilà. Il n'a plus l'empathie, il n'a plus ce genre de choses, mais il est capable de raisonner, planifier une action froidement très spectaculaire. Et inversement, si j'ai cette partie chaude et j'ai plus cette partie froide, je suis velléitaire, je veux faire plein de choses, mais je suis incapable de les opérationnaliser.
Il y a une partie passionnante dans votre livre, Richard Lévy, c'est quand vous tentez d'expliquer ce que veut dire décider. Et comment est-ce que le cerveau s'y prend pour que celui qui le contient décide. Et vous dites que toute décision est guidée par la tentative d'obtenir une récompense ou bien d'échapper à une punition. Oui. Ça demande une petite explication.
Oui, c'est un point, je pense que c'est fondamental dans le comportement humain, c'est-à-dire que ce qui, selon moi, régit notre comportement, ce n'est pas notre raisonnement. Ce qui régit notre comportement, c'est la valeur que l'on attribue aux choses. C'est un modèle comportemental basique qui est présent dans toutes les espèces animales. Et on peut dire que c'est la valeur que l'on attribue aux choses qui va déterminer si l'on agit ou si l'on n'agit pas. Donc si j'estime que une situation ou un objet est une récompense, le comportement que je veux opérationnaliser, c'est d'aller vers cet objet. Et inversement, si j'estime qu'une situation est une punition potentielle, je vais tenter d'éviter la punition, me comporter pour éviter cette punition. Donc, le primum novans de nos comportements, c'est cette capacité à donner une valeur aux choses. C'est elle qui va déterminer ultérieurement la façon dont on va opérationnaliser notre comportement. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas le raisonnement qui conduit à donner des valeurs aux choses. C'est les valeurs aux choses qui permettent de donner une opérationnalisation qui permet d'agir.
Vous êtes un peu spinoziste,
non? Oui et non.
Vous citez l'exemple de Jean Moulin, grand résistant que tout le monde connaît. Et vous dites qu'en fait, il est devenu résistant parce qu'il aurait pas pu faire autrement.
Voilà. Il faut essayer de comprendre cette idée-là. C'est-à-dire que, Si on se considère comme des organismes biologiques dont le but principal est la survie de notre propre organisme ou la survie de notre espèce, nous ne sommes pas différents des autres organismes biologiques, basiquement. Nous tentons de survivre ou d'atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un niveau de bien-être intérieur. Et le cerveau humain a construit, bien sûr, comme toutes les autres espèces animales, on a des valeurs très 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 basiques. Le sucré, le salé, c'est quelque chose qui peuvent nous pousser à agir parce que c'est nécessaire de les obtenir pour la survie. Mais on a réussi, grâce à ce cortex préfrontal, à créer des valeurs plus abstraites. Et ces valeurs plus abstraites, on a besoin de s'ajuster à ces valeurs abstraites souvent. Et pour nous, ça peut être considéré comme un élément d'homéostasie, même de survie. Et si on construit des valeurs abstraites qui sont l'abnégation, par exemple, ou l'altruisme, eh bien, on va éventuellement faire des actions qui peuvent s'opposer au bien-être organique de notre système. Et pourtant, elles sont en adéquation avec nos valeurs et elles nous poussent à agir. C'est ce que je voulais dire par l'exemple de Jean Moulin, on pourrait dire Mère Teresa, ou prendre plein d'autres exemples. Je ne dis pas qu'ils sont purement agis par un intérêt égoïste, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais même cet altruisme correspond à l'ajustement par rapport à des valeurs qui sont fondamentalement implémentées, et qui sont implémentées de la même façon que le chocolat ou le sucré et le salé sont implémentés. Ils sont traités, ils sont processés en quelque sorte, comme on dirait, dans le cerveau par les mêmes structures, par les mêmes neurones. Il n'y a pas de différence entre une valeur abstraite et une valeur concrète dans le traitement de ces valeurs.
Le mot chocolat revient souvent dans votre bouche.
Ouais,
vous l'avez compris. Moi, je vais pas parler de chocolat, justement, je vais parler des navets. Ouais. D'où vient qu'on peut ne pas aimer les navets, même les détester, et puis tout d'un coup, on se met à les adorer. C'est quoi le processus ?
Absolument. Ben, je prends un exemple. Moi, personnellement, j'aime pas les navets. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais bon, imaginons que malheureusement, nous soyons dans une situation de disette, de famine, et qu'il n'y ait plus que des navets, des rutabagas. Je crois qu'il y a une époque où on a connu ça. Si j'ai rien d'autre à manger, ces navets, ces rutabagas vont prendre une valeur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des valeurs absolues. Si je dis que 100 est plus grand que 1, en valeur absolue, 100 est plus grand que 1, et c'est indiscutable dans notre système mathématique. Maintenant, si je peux tout à fait vous dire que 1 est plus grand que 100, je peux même vous le démontrer pour le cerveau humain. 1 peut être plus grand que 100, tout simplement si 100 a une valeur absolue à un moment donné, mais que 1 prend une valeur qui, dans le temps, au bout de 45 minutes, va apporter une réponse, une récompense qui est plus importante que la valeur de 100 du moment présent. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux grands types de valeurs. Il y a des valeurs absolues qui sont traitées dans le cerveau de façon automatique. Et puis, il y a des valeurs qui sont
affectives,
contextualisées, qui sont relativisées. C'est-à-dire qu'il y a des structures dans le cerveau qui vont apporter une relativisation à une valeur, c'est-à-dire que vous allez peser le pour et le contre, le bénéfice et l'inconvénient. Et une situation peut être désavantageuse à un moment, et progressivement, le ratio va s'inverser et elle devient avantageuse. Mais pour que cela se fasse, il faut supplanter les valeurs absolues, les contextualiser, les relativiser. Et encore une fois, le cortex préfrontal
fait ça. Il faut un changement de contexte.
Voilà, mais il faut que le cerveau comprenne ce changement de contexte et opère ce changement de contexte.
C'est ce qui fait que le navet peut gagner du goût.
Absolument.
Alors, vous parlez beaucoup de libre-arbitre dans votre livre, Richard Lévy. Je ne veux pas lancer une guerre d'école, mais il y a quelques semaines, on a reçu Stéphane Charpier, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cauchemar de Descartes, dans lequel il dit que le libre-arbitre est en gros une fiction, c'est-à-dire que quand notre conscience a l'impression de prendre une décision, en réalité elle a été prise par une activité neuronale qu'on ne perçoit pas, qui percole dans la conscience, qui du coup, conscience qui croit qu'elle a pris la décision, alors qu'en fait, le cerveau l'a pris à sa place. Autrement dit, notre cerveau n'en fait qu'à sa tête.
Alors je conçois tout à fait cette idée qu'alors, elle, purement spinoziste, et qui s'oppose
à Descartes
ou à Saint-Augustin, qui avait une vision totalement opposée à ce point de vue. Alors, je pense qu'à première vue, on pourrait donner raison à mon collègue, dans le sens où nous sommes contraints de toutes parts, c'est-à-dire que nous sommes contraints par nos sens, par nos percepts, nous sommes contraints par les lois physiques que nous bénéficions, que nous subissons, la pesanteur, la température, enfin tout ce que l'on veut. Nous sommes contraints par un grand nombre de biais cognitifs, c'est-à-dire des processus inconscients qui vont déterminer certaines de nos actions. Et puis nous sommes totalement contraints par la trajectoire de vie que nous avons, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, je ne suis pas à Sydney, il n'est pas 8 heures du matin. Nous sommes à un endroit, à un temps précis, qui a été déterminé par toutes les actions qui ont précédé. Donc évidemment, la marge d'action est limitée. Et en plus, pour terminer et pour couronner tout ça, nous avons un organisme, un cerveau qui est fini et qui ne peut pas aller au-delà de sa propre finitude. Donc toutes ces contraintes qui s'imposent à nous de toutes sortes font qu'on pourrait penser effectivement que nous n'avons aucune marge de manœuvre, aucune liberté d'action. Alors, le libre-arbitre, c'est une notion de philosophie qui a finalement en elle l'idée de liberté qui est une qui est une pensée un peu absolue. Moi, ce que je défends, c'est qu'on a quelques marges de manœuvre par rapport à l'ensemble des contraintes qui s'exercent sur nous. Alors, je m'explique. Quand le cortex préfrontal est détruit, les patients que nous voyons sont des patients qui sont totalement esclaves de leur environnement et du présent. Vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas de drive interne, ils n'ont pas de conduite qui parte d'une prise de décision interne. Ils sont totalement dépendants de l'environnement, de leurs pulsions, etc. Ça veut donc dire que quand cet organe est affecté, nous n'avons plus de liberté. Ce qui pourrait dire, vouloir dire en miroir que lorsqu'il est intègre, peut-être avons-nous une marge de liberté. Et donc si on part de là, on se pose cette question, avons-nous quelques degrés de liberté? Et la réponse, encore une fois, elle tient dans ce que nous avons déjà discuté préalablement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut figer le présent, on peut introduire d'autres dimensions de la réflexion et donc on peut délibérer. Alors la délibération se fait en temps réel, et elle est visible, elle n'est pas un phénomène qui est observé a posteriori de la décision. Elle apparaît avant même l'action. Donc je prends un exemple très simple. Vous présentez à un singe, un de nos cousins, qui lui aussi a un cortex préfrontal assez proche du nôtre. Vous lui présentez une planche avec deux récompenses. Le singe voit ces deux récompenses. Il va pouvoir éventuellement en prendre l'une des deux. Vous en enlevez une et vous en laissez une sur cette planche, à gauche ou à droite. Le singe voit où est la récompense. Il voit qu'elle est à droite et qu'elle n'est pas à gauche. Et ensuite, vous abaissez un écran qui va séparer le singe, un écran opaque, qui sépare le singe de cette planche. Et vous recouvrez la récompense d'une plaque. Et l'endroit où il n'y a pas de récompense, vous mettez aussi une plaque identique, si bien que l'animal ne pourra pas voir où se trouve la récompense. Et vous laissez passer un temps, 30 secondes par exemple, et ensuite vous relevez l'écran, et le singe va choisir une des deux plaques. Et évidemment, il va essayer de soulever la plaque qui recouvre la récompense. Si vous enregistrez l'activité des neurones dans le cortex préfrontal, pendant ce temps d'attente, c'est-à-dire un moment où il ne se passe rien, l'animal ne voit rien, vous allez voir une très très forte activité des neurones dans le cortex préfrontal. Ces neurones, qu'on appelle des neurones de délai, sont des neurones qui vont coder à la fois la position de la récompense, mais aussi qui vont anticiper le vecteur de réponse que l'animal va faire, la direction dans laquelle il va diriger son mouvement. Si vous détruisez la zone où se trouvent ces neurones pendant et que vous demandez à l'animal, vous faites la même épreuve, à ce moment-là, l'animal va réagir au hasard et va être incapable de choisir
le bon côté.
Il a oublié, mais surtout, il est incapable de préparer la réponse à venir. En d'autres termes, pendant ce temps de délai, il y a des neurones qui vont préparer les actions qui sont à venir. Ils vont devoir décider si c'est à gauche ou à droite aussi. Mmh. Voyez.
Mais c'est ça que vous appelez la mémoire de travail.
C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire cette capacité à maintenir et à manipuler des
informations. À retenir un 0,6.
Voilà, en prévision d'une action à venir. Et donc ça, ce n'est pas une activité a posteriori qui nous donnerait l'illusion qu'on a pris une décision, mais qui n'est que la conscience de ce que l'on a fait. Ce n'est pas ça, c'est une action a priori, avant... c'est une activité a priori avant l'action qui va déterminer l'action que nous allons faire. Et en ça, cette structure nous permet de dégager une certaine marge de liberté entre la perception et l'action. Alors je ne dirais pas que nous avons un libre arbitre au sens complet et absolu du terme, mais nous avons quelques degrés de liberté par rapport aux contraintes qui s'imposent à nous. Et pour terminer ce point, à partir du moment où vous avez 0,00000001% de marge de manœuvre, vous êtes libre. C'est pas la même chose que zéro. Donc, même si c'était aussi bas que ça, nous aurions une marge de manœuvre.
Donc, ce que vous défendez comme idée, enfin, c'est plus qu'une idée, ça a l'air d'être un fait sur lequel vos travaux s'appuient, ou plutôt qui s'appuie sur vos travaux, c'est que le cortex préfrontal est à l'initiative de toutes nos actions volontaires.
Exactement.
C'est là que réside la liberté. Enfin, le libre arbitre.
Une marge de manœuvre, voilà. Et qui permet aux philosophes de discuter du libre-arbitre.
Voilà.
C'est-à-dire que si nous n'avions pas cette structure, aucune discussion...
Autre sujet, Richard Lévy, d'où vient qu'on a le trac, parfois?
Alors, ça vient d'un défaut de régulation de nos émotions, c'est-à-dire d'un défaut de contrôle d'émotions qui nous submergent et qui viennent sidérer finalement nos capacités cognitives. Donc, imaginez que vous ayez un exposé à faire, un discours à faire, ou même un examen.
Une émission de radio.
Mais vous avez déjà les questions avant, donc vous les travaillez, ce qui n'est pas le cas ici.
Moi j'ai bégayé.
Donc je les travaille chez moi, voilà, je les révise devant mon miroir, je fais le poirier, tout va très bien. Et puis je rencontre Étienne Klein, vous m'impressionnez, et je suis face à vous, et là je perds mes moyens. C'est-à-dire que dans cette condition, je connaissais bien mon sujet, tout était bien en place, mais une émotion négative, un stress, est venu sidérer mes capacités cognitives.
Le chaud a mangé le froid.
Le chaud, trop hyperactif, est venu envahir le froid. C'est-à-dire que le cortex préfrontal chaud n'a pas bien régulé le signal émotionnel, et ce signal émotionnel, au lieu d'entraîner une augmentation de performance, entraîner une baisse de performance. Mais maintenant, imaginons que vous ayez une très très belle récompense au bout de la route, vous pouvez aussi très bien utiliser cette capacité pour augmenter vos capacités cognitives. Mais au moment où nous parlons, il faut que je mette de côté mes émotions, parce que celles-ci peuvent être envahissantes et entraîner cette sidération cognitive précédée du trac et qui va entraîner le trou noir dans une discussion. Oui.
Dernière question, Richard Lévy. Votre discipline, la neurologie, qu'est-ce qu'elle nous apprend des maladies mentales ? La question, c'est finalement, est-ce que toutes les maladies mentales, dont on parle beaucoup en ce moment, sont liées à un dysfonctionnement dans le cerveau ?
Toute pensée, toute action est un signal électrique et un signal chimique dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Donc nécessairement, il est issu d'un ensemble de mécanismes biologiques qui vont le générer. Donc toute anomalie de génération de la pensée
ou du comportement,
à partir du moment où on détermine des normes que l'on considère comme pathologique, va être une modification de ce signal, une déformation de ce signal. Alors ensuite, il y a différentes façons dont ce signal peut être modifié. Il peut être modifié parce qu'il y a des lésions structurelles, des destructions dans le cerveau qui vont entraîner une perte de fonction, une modification importante de la fonction d'une structure ou d'un réseau cérébral. Mais il peut y avoir aussi, sans lésion, il peut y avoir des dysfonctionnements. Si je prends l'exemple d'une voiture, si votre voiture ne démarre pas le matin, c'est peut-être parce que le moteur est cassé, et donc ça c'est une lésion structurelle, c'est une destruction, ou bien alors il n'y a plus d'essence dans le réservoir, et donc le moteur ne démarre pas. Le moteur n'est pas cassé, mais il n'est pas capable de démarrer. Donc si vous voulez, il y a des dysfonctionnements, et puis il y a des destructions. Et l'ensemble de ces mécanismes peuvent produire des troubles cognitifs, des troubles comportementaux.
C'est-à-dire que regarder un cerveau attentivement, utiliser tous les moyens d'observation dont vous disposez, ne suffit pas pour faire de la psychiatrie.
Ça ne suffit pas parce que nous n'avons pas nécessairement tous les outils qui permettent de voir les dysfonctionnements. Voilà. Et donc on peut voir les lésions, on les voit assez bien maintenant en neurologie, on est capable grâce aux IRM et grâce à d'autres techniques de détecter des lésions. Maintenant, une personne qui aurait une maladie mentale qui ne serait pas dans le champ de la neurologie, comme une dépression sévère, eh bien nous n'avons pas nécessairement tous les outils pour détecter toutes les dysfonctionnements, bien qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, on arrive à détecter, ne serait-ce que dans une dépression, des modifications de fonction d'un certain nombre de structure cérébrale.
Est-ce que vous avez, en tant que neurologue, des discussions avec les psychiatres ?
Absolument, c'est un champ absolument essentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, notamment ceux qui ont des troubles du comportement, qui sont aux confins de la neurologie et de la psychiatrie. Et malheureusement, quand il n'y a pas de discussion entre les neurologues et les psychiatres, les médecins se renvoient les patients. Donc les patients errent de la neurologie à la psychiatrie. Est-ce une dépression atypique ? Est-ce une maladie psychiatrique ? Est-ce une maladie neurologique ? Et donc il y a une nécessité à développer de nouveau ce qu'on appelle la neuropsychiatrie pour ces patients-là, c'est-à-dire une collaboration étroite entre neurologues et psychiatres, de cultures différentes des pathologies mentales, mais qui doivent se parler. Et ce que nous essayons de faire à la Pitié-Salpêtrière, dans une unité de neurologie comportementale, c'est de faire se parler les neurologues et les psychiatres et de voir des patients ensemble au même moment et d'avoir ces deux points de vue qui permettent enfin aux patients de ne pas errer et de ne pas se retrouver où ils ne doivent pas être pendant des années.
Vous connaissez l'anagramme de la Pitié-Salpêtrière ?
Dites.
Et traitera l'épilepsie. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Richard Lévy d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre Cortex qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Il est passionnant, je le dis franchement. Je recommande donc la lecture. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et à la mise en onde Julien Moulet.